Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à Libre Ensemble. Jacques Nizin à la technique, Pilar Arcas au micro. L'enseignement, la politique des petits pas, point d'interrogation, est le titre de l'émission d'aujourd'hui. Pour tenter d'y voir plus clair et afin de comparer les revendications en matière d'enseignement du CEDEP ou du Centre d'études de défense de l'école publique et la déclaration politique communautaire, je reçois aujourd'hui Pascal Chardhomme, président de la CGSP Enseignement, et Johanna De Villers, chargée de mission à la cellule études et stratégie du Centre d'action laïque Bruxelles. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Le Centre d'action laïque est particulièrement attentif à la mission de l'école qui est avant tout de former des citoyens et citoyennes libres, autonomes et émancipés. C'est entre autres à l'école qu'ils vont pouvoir développer leur capacité d'analyse, d'esprit critique, la volonté d'apprendre, d'échanger et de s'investir dans des projets personnels ou collectifs. Pascal Chardhomme, les dépenses annuelles globales de l'enseignement en 2013 s'élèvent à 7,16 milliards d'euros en Fédération Wallonie-Bruxelles. Cela représente une part de 75,9% des dépenses totales de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Or, d'après l'OCDE, notre système scolaire serait un des plus inégalitaires avec un taux d'échec record. Comment pourriez-vous nous expliquer ce paradoxe ?
Alors bien entendu, c'est avant tout l'usage qui est fait de cet argent. Les études européennes nous disent que par rapport aux autres pays européens, la part du PIB consacré à l'enseignement est honorable. On n'est pas les meilleurs, on n'est pas les plus mauvais. Donc on consacre suffisamment, on va dire, d'argent à l'enseignement. Le problème est l'usage qui en est fait. Et moi, personnellement, l'organisation même de l'enseignement qui a permis à cet enseignant de se constituer en réseau, qui a permis aux parents de choisir librement leur école et donc quelque part d'instaurer un quasi-marché scolaire avec une concurrence effrénée entre écoles, a fait qu'on en est arrivé effectivement à avoir des écoles qui sont les plus inégalitaires au monde. Là, on est des champions. Et on a, alors qu'en matière d'inégalité sociale, là aussi, la Belgique se situe grosso modo dans la moyenne européenne, nous parvenons, c'est un paradoxe, à transformer les inégalités sociales en inégalités scolaires et à avoir le système vraiment le plus inégalitaire. Donc, en regroupant essentiellement tous les enfants issus de milieux socio-économiquement défavorisés dans des écoles et en laissant les parents presque, ou les écoles parfois, faire des sélections de façon à ce que les élèves disent bon ou un bon potentiel, eux aussi se retrouvent en groupe, ensemble, et donc sans aucune mixité ni sociale ni académique dans d'autres écoles.
Mais en quoi cette façon, comme vous disiez, de faire son marché de l'école a une incidence budgétaire ? Pourquoi est-ce que ça coûte plus cher ?
Parce que clairement, en multipliant donc les écoles et surtout en permettant la concurrence, chaque école, évidemment, pour survivre, cherche à avoir une offre d'enseignement la plus large possible. Et donc, on multiplie parfois les coûts en atelier, par exemple. Vous avez parfois dans une même rue une école libre, une école communale, et voire une école organisée par la communauté française qui organise les mêmes options. Ce qui veut dire que ces trois... On va prendre un exemple, une section menuiserie, est parfois sous-peuplée dans les trois écoles, alors que si on avait permis des regroupements de façon intelligente, en donnant notamment des incitants pour le faire, on aurait peut-être qu'un seul atelier, qu'un seul cours, qu'une seule école qui organise cette option, avec des élèves regroupés, ce qui veut dire qu'en termes de perte d'emploi, il n'y en aurait pas nécessairement, mais en tout cas, on pourrait offrir de meilleurs... Ici, chacun, pour survivre, parfois ne veut pas fermer une option, et donc on maintient envers et contre tout des options qui sont obsolètes ou non porteuses d'emploi. Et ça coûte très cher. Mmh.
On va parler tout à l'heure de la politique des passerelles, ce que vous venez d'aborder d'une certaine façon. Est-ce que, pour revenir, si vous voulez, au budget et comment cet argent est dépensé, est-ce que vous partagez, Johanna De Villers, la vision de Pascal Chardhomme ?
Oui, tout à fait. Mais la question du budget global de l'enseignement est vraiment une question compliquée. Effectivement, on est dans les élèves moyens, si on doit se référer aux comparaisons internationales, on est dans la moyenne OCDE en termes de budget d'enseignement, de dépenses par élève. Mais qu'est-ce qu'on compte là-dedans? Si on compare à d'autres pays, par exemple l'Allemagne qui dépense moins pour ses élèves, il faut savoir que l'Allemagne externalise, entre guillemets, une certaine part de son enseignement, notamment l'enseignement technique et professionnel qui est pris en charge par le privé à partir d'un certain âge. Qu'est-ce qui coûte cher chez nous? C'est un tronc commun, donc jusque 14 ans et pas jusque 16 ans. Donc la multiplication des voies, des filières à partir de assez jeune dans la trajectoire scolaire. Donc tout ça coûte. Effectivement, les réseaux, on en a déjà parlé. On a aussi un enseignement spécialisé et qui est tout à fait nécessaire dans un certain nombre de situations qui coûtent de l'argent. Et c'est très bien que ça coûte de l'argent. Et moi, je dirais, en quoi est-ce que ça pose question que l'enseignement coûte cher? Il faut que ça coûte cher. Mmh. Voilà.
Pascal Jardom, pour en rester un peu sur le coup et pour mettre un petit peu les pieds dans le plat, parce que c'est une phrase qui peut choquer, mais je dirais qu'on sait aujourd'hui qu'un élève qui redouble coûte cher à la communauté. C'est un peu bizarre de dire ça, mais on sait que ce redoublement creuse aussi, d'une certaine façon, le déficit de confiance et d'estime de soi de l'élève, qui est si utile à sa construction. Quelles sont les revendications du CETEP, qui sont soutenues par la CGSP, en matière de lutte contre l'échec et le redoublement?
Alors clairement, ce redoublement, effectivement, c'est un des fléaux de notre enseignement. Là aussi, on est quasiment les champions. Hein. Chaque fois qu'on est sur la plus haute marge du podium, c'est malheureusement avec des critères négatifs. Il importe donc d'abord de changer les mentalités, parce qu'il faut savoir qu'il y a encore actuellement, les choses évoluent. On était de 80%, on est passé à 60% des enseignants qui estiment que le redoublement est encore efficace. Au niveau des parents, on a encore une très large majorité, on est au-delà de 3 parents sur 4 qui disent que le redoublement est efficace.
Oui, donc j'en profite pour dire que vous êtes contre le redoublement.
Bien entendu, contre la pratique. D'autant plus que tous les experts pédagogiques, je crois qu'il y a même unanimité en la matière, disent que ce n'est pas une pratique efficace. En tout cas, tel qu'il est pratiqué, il est parfois intéressant de refaire un cursus à un élève sur des matières qu'il ne maîtrise pas. Mais ici, on a un système où on lui fait recommencer l'entièreté de son année, y compris les matières qu'il a réussies. Donc c'est le système qui ne fonctionne pas. Et comme vous l'avez dit, il coûte très cher. Le dernier chiffre annoncé par les indicateurs de l'enseignement, c'est 400 millions. Imaginez le nombre d'emplois qu'on pourrait utiliser pour lutter justement contre ce redoublement et l'échec qu'il génère. Et donc, notamment, en utilisant ces moyens pour prendre des enseignants qui font de la remédiation, qui dépistent précocement les difficultés. Il y a beaucoup de choses à faire. Dans la déclaration politique communautaire, là, on voit que le CEDEP est rejoint aussi par le politique, puisqu'ils veulent des alternatives au redoublement, mais il y a jusqu'à présent, et j'espère que les choses ont changé, souvent eu vraiment un manque de courage politique en la matière.
Oui, ça demande vraiment un changement des mentalités.
Tout à fait, parce que simplement proscrire le redoublement, ça ne suffirait pas, évidemment. On pourrait croire, il y a déjà eu des expériences du jour au lendemain, on a dit dans le fondamental, on ne double plus entre la première et la deuxième. Au premier degré du secondaire, on ne double plus entre la première année et la deuxième. Mais si on n'accompagne pas ça, évidemment, de mesures, ça ne sert à rien. Au contraire, on accentue alors le retard occasionné par les difficultés rencontrées par l'élève.
Mais justement, vous parliez tout à l'heure de détection précoce et même systématique des difficultés d'apprentissage. C'est vrai que là, on pourrait trouver une véritable solution, n'est-ce pas, pour déjà aider les plus petits à bien s'aiguiller dans un système scolaire qu'on ramènerait plutôt un peu à eux? Est-ce que cette mise en place de la détection peut être réalisée?
Oui, moi je crois. Elle est d'abord primordiale. Clairement, là aussi, encore un exemple négatif, nous étions un pays qui maintenait quasiment à un moment donné presque 5%, donc un élève sur 20, en maternelle, alors qu'il faut savoir que l'obligation scolaire en Belgique, elle est de 6 ans. Donc à 6 ans, vous entrez dans l'enseignement primaire. Personne ne peut s'y opposer. Eh bien, on maintenait des enfants en maternelle. Pourquoi? Parce que n'ayant pas dépisté parfois suffisamment tôt certaines difficultés, on n'a pas pu y remédier. Et les enseignants et les parents, ou parfois sous suggestion des enseignants, mais ça peut aussi aller dans l'autre sens, les parents disaient parfois j'estime qu'il n'est pas encore mûr pour aller en primaire. L'enseignant disait il n'a peut-être pas encore, maîtrise pas encore assez la langue de l'enseignement pour aller en primaire. Et donc on maintenait ces gosses mais sans dépister nécessairement les difficultés. Et donc toutes les études ont prouvé qu'un maintien simple ne sert à rien. Tous ces enfants maintenus en maternelle, en général, terminent de toute façon l'enseignement primaire avec au minimum une année de retard.
Mmh. Et Johanna de Villers, quelle est votre vision? Vous partagez celle de Pascal Jardom?
Oui, tout à fait. Je pense qu'en Belgique et dans le système scolaire et au-delà du système scolaire, effectivement dans la culture des parents, on croit aux vertus, on continue à croire aux vertus du redoublement. Et effectivement, comme M. Jardom l'a dit, toutes les études montrent que le redoublement est inefficace. Cela dit, le redoublement est fonctionnel dans notre système scolaire. C'est-à-dire que les enseignants y sont attachés parce que ça leur permet pensent-ils de gérer leur groupe classe, de gérer le niveau de la classe, peut-être de maintenir une certaine discipline, une certaine réputation d'école. Et donc, mais tout ça, évidemment, n'a aucun intérêt pédagogique en termes d'apprentissage. Un autre mythe sur lequel repose le redoublement dans notre système scolaire, c'est qu'on pense que tous les enfants vont acquérir les mêmes apprentissages en même temps. Or, on sait très bien qu'un enfant peut apprendre à lire à 5 ans et qu'un autre, eh bien, il sera prêt à 7-8 ans. Et qu'entre les deux, il y a parfois 2-3 ans d'écart. Et donc, un système où on évalue en même temps tous les enfants sur les mêmes types d'apprentissage génère du redoublement, génère de l'échec, inévitablement. Et donc, voilà, il faut mettre en place des pédagogies différenciées, du suivi plus individualisé. C'est pas facile à faire pour les enseignants. Et loin d'ici l'idée de leur jeter la pierre, on en parlera peut-être plus tard, mais il y a la question de la formation, évidemment, de la formation initiale.
Oui, on va
en parler. Ça s'apprend. Voilà, donc l'enseignement, le redoublement, oui, c'est, comme on le dit, c'est le fléau de notre enseignement. On arrive à quasiment 50% des élèves qui sont en retard à 15 ans.
Donc, 50%?
50% des élèves qui ont au moins une année de retard dans leur cursus à 15 ans. On a 36% en première secondaire, on a 10% en fin de première primaire. C'est énorme.
Mmh, oui, voilà. Effectivement. Justement, pour continuer sur cette lutte contre l'échec scolaire qui peut mener, ça je ne le sais pas, mais vous me le direz peut-être, au décrochage scolaire ou décrochage complet, donc c'est dangereux. La déclaration de politique communautaire propose de renforcer la remédiation immédiate. Il me semble que ça demande d'abord d'engager beaucoup de professeurs et puis surtout un changement des mentalités très très important en termes de formation. Et aussi, troisième sous-question, ça va faire beaucoup, est-ce que c'est réaliste sur le plan pécunier?
Ça, j'ai envie de dire que le gouvernement doit assumer évidemment les choix qu'il fait dans sa déclaration de politique communautaire, mais on vient déjà de vivre un premier couac en la matière, à savoir que les 350 premiers enseignants, il y en a 750 prévus par la DPC, auraient été engagés sur base d'un recyclage de moyens. Et de quels moyens? Des moyens de fonctionnement accordés aux écoles qu'on appelle encadrement différencié, c'est-à-dire les écoles qui accueillent les publics les plus défavorisés.
Donc les 350 professeurs ont déjà été engagés?
Non, mais on essayait de dégager l'argent pour le faire de façon anticipée, puisque les 750, tout le monde nous dit qu'il ne fallait pas les attendre avant de fin de législature, quand peut-être les mesures d'austérité auront porté leurs fruits et qu'on aura récupéré un peu d'argent. Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Mais en tout cas, si c'est pour faire de l'autofinancement et donc de priver des écoles qui en ont besoin pour des projets culturels, pour justement amener ces enfants vers une ouverture vers le monde, parce que ce sont des gosses qui ne vont jamais au musée, qui ne vont jamais dans une exposition, qui sortent rarement de leur quartier, si c'est pour supprimer ces moyens-là, pour engager de la remédiation, moi, évidemment, on a beaucoup d'inquiétudes sur ce financement. Maintenant, c'est bien d'engager, c'est pas un syndicaliste qui va vous dire que c'est pas bien d'engager du personnel en plus. Encore faudrait-il que la DPC soit beaucoup plus claire sur qu'est-ce qu'on va faire avec ces enseignants, qui seront-ils? Est-ce que ce sont des nouveaux enseignants, donc ils ne sont pas nécessairement mieux formés que les professeurs expérimentés? Faire de la remédiation, c'est presque un nouveau métier. C'est pas parce que vous êtes enseignant, on vous a essentiellement formé à gérer un groupe d'élèves, et du jour au lendemain, dire que vous êtes aussi fort et aussi performant pour gérer des enfants à difficulté dans des petits groupes, voire en individuel, c'est pas nécessairement le métier auquel on a été formé ou auquel on se destinait. On connaît aussi parfois des dérives où, on met des professeurs un peu essoufflés en fin de carrière en disant, ça lui permettra de terminer sa carrière avec un peu moins d'élèves. Ou, j'irais jusqu'à dire, on a des exemples, parfois, un professeur qui convient plus tout à fait devant une classe et on se dit, il fera peut-être un peu moins de dégâts devant un ou deux élèves. Mmh. Alors, si c'est ça, on va obtenir l'effet complètement inverse à celui escompté. Donc, pour nous, ces enseignants, ils sont nécessaires, on l'a dit tantôt, pour lutter contre ce redoublement, cet échec scolaire, mais il faut leur assurer un minimum de formation, qu'elle soit initiale, ça serait mieux, s'ils avaient ça dans la formation initiale, mais pour le moment, au moins essayer de voir quelles sont les personnes qui pourraient prendre cette nouvelle tâche, sinon on risque de nouveau de gaspiller, et on est un peu coutumier du fait, de l'argent dans une réforme ou un projet qui n'aura pas les résultats escomptés.
Mmh. Donc, je résume, un nouveau type de remédiation, ça demande une formation spécifique et une évolution des mentalités. Pour rester un peu dans cette perspective de l'évolution des mentalités, le CEDEP prône une évaluation positive des élèves. Donc, il s'agirait enfin de valoriser ce que l'élève sait déjà, ce qu'il détient comme savoir, plutôt que de sanctionner ce qu'il ne sait pas. Est-ce qu'il y a des solutions faciles à mettre en œuvre à court terme, Johanna de Villers ou Philippe Chardom, je ne sais pas lequel de vous deux veut répondre en premier. Johanna de Villers.
Je peux essayer. Parce que ce sont
mais on peut réfléchir ensemble, oui.
Purement pédagogique. Alors, quand on sait dans notre enseignement pour le moment, l'évaluation, comme relève de la liberté pédagogique. Donc, à part les évaluations externes, les établissements, dans le cadre de leur pouvoir organisateur, évidemment, font ce qu'ils veulent en termes d'évaluation. Donc, il y a des écoles, de très très rares exceptions, qui n'évaluent pas directement les enfants, qui évaluent, mais de manière continue, sans mettre l'enfant en situation d'examen ou de stress. Il y a d'autres écoles qui évaluent tout le temps. Alors, moi, je suis pas pédagogue, donc je vais pas dire si c'est bien ou pas bien, mais je pense que certaines écoles, et certes une majorité des écoles, évaluent beaucoup trop les enfants. Ils sont en perpétuelle évaluation. Ils sont en évaluation parfois tous les jours dans certaines écoles. Contrôle, leçon. Ça met les enfants en difficulté. Est-ce que c'est positif en termes d'apprentissage? On peut sérieusement se poser la question. Alors, il y a des projets pédagogiques qui se mettent en place. Il y a des projets d'auto-évaluation où les enfants s'évaluent par eux-mêmes, où on les évalue quand on estime que l'enfant est prêt à être évalué pour telle ou telle matière. Donc, mettons qu'ils doivent avoir tel acquis en mathématiques. On va pas évaluer tout le groupe classe en même temps, mais on va évaluer une partie du groupe classe à tel moment, une autre partie à tel moment. Donc, on respecte plus les rythmes d'apprentissage, sachant que l'évaluation est quand même importante en termes de validation d'acquis. Donc, pour s'assurer quand même que tous les enfants ont acquis un minimum de compétences à la fin de leur cursus. Mais il faut pouvoir doser, et je pense qu'aujourd'hui, que le CEDEP pense qu'aujourd'hui, on est dans l'excès de ce qu'on appelle l'évaluation aux sanctions. Donc, on évalue pour savoir si l'enfant va passer de classe, et donc pour savoir s'il a acquis ou non certains apprentissages. Mmh.
Pascal Chardom. Oui,
donc pour moi, l'évaluation, elle est bien entendu nécessaire. Si le CEDEP, et c'est très important, parle d'évaluation positive, c'est parce que pour le moment, on n'en fait pas, ou très peu. Hein, on a essentiellement des évaluations en fin d'un cursus, en fin d'année scolaire, parfois en fin de trimestre, et qui sanctionnent immédiatement l'élève, par exemple, par le redoublement. Donc si on avait en place un système d'évaluation continue, mais continue, c'est simplement tenir à jour les acquis que l'enfant. Et pour ça, on peut être aidé par des évaluations externes qui existent déjà. Et dire, cet enfant évolue à son rythme. Tiens, attention, il prend un peu de retard par rapport à ses condisciples. On lui amène immédiatement une remédiation. Et c'est là la raison de l'évaluation. C'est de voir celui qui décroche à un moment donné. On pourrait alors leur permettre vraiment d'avoir... Il faudrait évidemment étendre la période. Si on prend le pays scandinave, il n'y a plus d'examen. Cette évaluation, elle continue à tout moment. Il y a une expérience pour le moment, un projet pilote dans le réseau organisé, où tous les jours, ou tous les quelques jours, les enseignants mettent sur un site internet auquel ont accès les parents, vraiment la progression des élèves, les résultats des interros. Et donc là, on suit vraiment l'élève presque au jour le jour. Les parents peuvent très vite voir aussi, tiens, c'est bizarre, hein, et là, il n'a pas réussi dans telle matière, qu'est-ce qui se passe? Quand ils en ont la potentialité de leur donner un coup de main, ou en tout cas s'en inquiéter aussi auprès de l'école. Et je crois que c'est vers ça qu'on doit aller. C'est pour ça qu'on parle d'évaluation positive. Il faut aussi permettre à la fois des évaluations externes, parce que c'est les seules qui sont vraiment objectives, puisqu'elles ne mettent pas en jeu le vécu de l'enseignant.
Donc vous êtes pour un bac, n'est-ce pas?
Non, pas le bac tel qu'il est organisé en France, non, pas du tout. On dit, nous, l'avantage de l'évaluation qui est prévue en fin de secondaire, c'est peut-être de permettre à un étudiant de choisir avec vraiment un maximum d'informations, le choix de ses études supérieures ou l'orientation vers un enseignement, par exemple, professionnalisant. Mais faire un bac pour le plaisir de dire on refait encore une évaluation supplémentaire en français, etc., non. Si les évaluations, c'est vraiment dans le but d'éviter, et on en a évoqué tantôt, Mme de Villers-Staffet, d'éviter les orientations précoces, de permettre aux enfants vraiment de faire des choix en toute connaissance de cause, de ne pas être influencés par l'école. On sait très bien qu'on a tendance dans une école à orienter l'enfant vers les sections de l'école organise. C'est la concurrence dont on parlait tantôt. Oui. Et pas les envoyer vers l'extérieur. Si les évaluations positives, elles servent à ça, on a aussi des exemples. Par exemple, la certification par unité, même chose. L'enfant acquiert petit à petit et il est dans une spirale et au fur et à mesure qu'il monte, eh bien, il arrivera un jour à la certification, mais à son rythme. Le problème, c'est que ce genre de choses, on l'impose quasiment aux enseignants sans les avoir informés, sans les avoir formés. Et donc, malheureusement, de nouveau, parce qu'on fait beaucoup de bricolage pour le moment au niveau pédagogique, essentiellement par manque de moyens, on n'atteint pas les objectifs qu'on souhaitait.
Alors une mesure qui semble très importante, c'est celle du renforcement du tronc commun jusqu'en quatrième secondaire. Est-ce que, Johanna de Villers, vous pouvez nous expliquer pourquoi, selon vous, c'est tellement important ?
Alors actuellement, le tronc commun dans notre système d'enseignement va jusqu'en deuxième secondaire, donc en principe plus ou moins jusqu'à 14 ans. Alors, on sait aussi qu'il fonctionne pas très bien, ce tronc commun, et qu'il y a une multitude de manières de le passer, et des tas d'enfants qui passent en troisième professionnel, presque parfois sans avoir leur certificat d'études de base.
Pour ceux qui ne savent pas, c'est une orientation vers la suite des études.
C'est un minimum de compétences et de savoir que tous les enfants doivent avoir acquis au terme du premier degré de l'enseignement secondaire, donc la fin du tronc commun. Alors pourquoi on demande le renforcement de ce tronc commun et un allongement progressif de ce tronc commun ? C'est parce qu'on estime qu'en termes d'égalité, il est inadmissible que des enfants, à partir de 13-14 ans, soient déjà orientés vers des carrières scolaires professionnalisantes. Parce qu'ils sont beaucoup trop jeunes pour faire des choix et qu'on sait très bien qu'à cet âge-là, les choix qui sont faits sont déterminés par des facteurs sociaux et donc par les caractéristiques sociales de leur famille. Il suffit de voir les indicateurs de l'enseignement. On voit très bien que dans les filières techniques et professionnelles, on retrouve les élèves qui ont l'indice socio-économique le plus faible. Et quand on va dans les filières générales, on a les élèves qui viennent des milieux les plus favorisés. Donc, cette manière de fonctionner, avec un tronc commun qui s'arrête assez tôt et qui oriente assez vite, joue en faveur des inégalités sociales. Alors là, nouveau, je vais me référer aux études non seulement qui ont été réalisées en Belgique dans les différentes universités et à l'international. On sait globalement que les systèmes scolaires qui orientent plus tard sont des systèmes qui sont moins inégalitaires. Et que par rapport à l'ensemble des pays, on est un pays qui oriente très tôt. Voilà. Donc tous ces éléments jouent évidemment en faveur d'un un allongement, un renforcement d'abord du tronc commun existant, pour qu'il existe vraiment, et puis un prolongement de ce tronc commun. Mais un tronc commun qui ne soit pas calqué sur l'enseignement général. C'est ce qui se passe pour le moment et c'est pour ça sans doute qu'un certain nombre d'élèves décrochent de ce tronc commun avant même de l'avoir terminé, donc terminent sans avoir leur CEB ou leur CE1D.
Donc ça se termine par un échec.
Un échec parce que ce tronc commun n'est pas conçu pour tous les élèves, ou alors il y a tous les soucis de redoublement, de faiblesse de la remédiation immédiate, de faiblesse de la prise en compte des spécificités des élèves, etc. Plus peut-être la question du sens de l'école, mais il y a toute une série de facteurs qui font que c'est extrêmement difficile. Mais en termes d'égalité des chances et de promotion sociale par l'école, c'est indispensable.
Le Centre d'Action Laïque et le CEDEP demandent conjointement que le réseau soit unifié. En quoi est-ce que cela consiste concrètement et quels en sont les avantages, Pascal Chardom ?
Alors là, bien sûr, ce que nous souhaitons, c'est qu'on aille, mais pas d'un coup de baguette magique, on sait qu'il y a beaucoup de travail à faire, c'est qu'on aille vers une collaboration forcée, parce que je crois que spontanée, elle sera toujours insuffisante, une collaboration forcée d'abord entre les réseaux, et puis petit à petit, l'aspect philosophique qui a justifié la mise en place de plusieurs réseaux, puisqu'on a des réseaux confessionnels, s'atténue très fort, et demander à des parents s'ils font encore le choix d'une école secondaire, notamment par choix philosophique, Non, la preuve en est, c'est que la plupart des parents choisissent l'enseignement officiel pour l'enseignement fondamental. Donc on prend par exemple l'école de la commune. Et quand on arrive au secondaire, bizarrement, à croire que tout le monde s'est converti, là on choisirait plutôt en majorité donc l'enseignement dit confessionnel. Donc moi je crois que ce n'est plus du tout un problème, et les parents eux-mêmes le disent. Et donc est-ce qu'il faut encore maintenir ces réseaux, surtout concurrentiels et qui sont un gouffre? Et donc quand on demande un réseau unifié dans un premier temps, ben, c'est aussi pour faire des économies s'entend à réinjecter dans l'enseignement, pas des économies
oui,
pour
sûr.
Le plaisir. Hein, et deuxièmement, ce réseau unifié aurait aussi des avantages pour le personnel, parce que pour le moment, vous êtes cloisonné. Il faut savoir qu'un enseignant est cloisonné dans un réseau, et s'il veut changer de réseau, il recommence son parcours du combattant à zéro. Il n'emporte jamais son ancienneté, par exemple, statutaire avec lui. Ce qui veut dire qu'on est persuadé qu'aller vers une école unique et publique, ou vraiment, qui serait en plus une école inclusif, ou alors on pourrait aussi assez facilement, puisqu'on récupérait des moyens, avoir des enfants qui cohabitent, mais avec des rythmes différents d'apprentissage. On a parlé tantôt de l'enseignement spécialisé. Certains enfants, et on en fait l'expérience pour le moment, pourraient, même s'ils sont à besoins spécifiques, être intégrés harmonieusement dans l'enseignement ordinaire, à condition évidemment qu'ils soient suivis par des professionnels. Voilà, c'est ça l'école unique et l'école publique que nous souhaitons. Pourquoi publique évidemment? Parce que là, clairement, les pouvoirs sont élus, démocratiques élu, et le citoyen peut toujours aussi demander des comptes quant à la gestion de l'enseignement, ce qui n'est pas le cas pour l'enseignement privé, bien entendu.
Justement, puisqu'on parlait des professeurs, l'accord du gouvernement entend, je cite, soutenir, valoriser et motiver les enseignants. Johanna de Villers, la Belgique est le dernier État membre à organiser une formation initiale des instituteurs en 3 ans. Partout ailleurs, dans tous les autres pays européens, c'est minimum un master. Est-ce qu'il ne faut pas commencer par là ?
Évidemment qu'il faudrait commencer par là. Mais est-ce qu'on a les moyens? Est-ce qu'il y a le souhait politique de le faire? Il y a toutes des questions organisationnelles que M. Chardon peut-être sera plus à même que moi de répondre. Mais évidemment, on voit bien que les enseignants sont démunis pour toute une série de compétences, par exemple la gestion d'un groupe classe, du collectif, tout ce qui est plus de l'ordre de la psychologie du groupe, etc.
Et puis socialement, c'est beaucoup plus valorisant.
La question
aussi.
Effectivement, c'est savoir quel public on attire dans les hautes écoles pédagogiques, et donc une formation courte sur 3 ans professionnalisante attire un certain public. On sait bien qu'en masterisant, on attire un autre public. Alors il ne faut pas que l'école normale devienne un outil de sélection et qu'on attire qu'un certain public. Il faut qu'elle reste ouverte à l'ensemble des publics et que le corps enseignant reflète la diversité sociale aussi, évidemment. Mais le fait qu'on reste le dernier pays européen à être sur une formation initiale en 3 ans, c'est quand même interpellant. Oui.
Pascal Jardin.
Alors, la volonté politique, en tout cas par le ministre Marcourt, elle y était. On a organisé des études, des enquêtes participatives. Il y a eu pas mal de... Et tout ça a débouché vraiment sur un consensus, hein, quand ça arrive, il faut le dire, vers un allongement nécessaire des études. Et effectivement, nous y voyons plusieurs avantages. La revalorisation de la fonction, hein, mais aussi... Quand vous questionnez, vous savez qu'on a une profession où on a un taux très important de décrochage précoce. C'est-à-dire que quasiment un enseignant sur 3 à Bruxelles, un enseignant sur 4 en général, décroche abandonne le métier avant de l'avoir exercé pendant 5 ans.
Et donc il va vers une autre filière.
Voilà, ils abandonnent le métier. Ils se disent, bon, ça me plaît pas. Ce sont donc des gens qui ont fait des formations d'enseignants.
Vous parlez de la pénibilité du travail, alors ?
Quand on les questionne, la pénibilité est évoquée, mais c'est surtout un manque d'accompagnement des jeunes enseignants, mais aussi manque de formation. C'est-à-dire qu'ils ne disent pas que leur formation est mauvaise, et nous ne le disons pas non plus. Ils disent que leur formation est insuffisante. Elle ne les prépare plus suffisamment à un métier qui devient de plus en plus compliqué. On a parlé tantôt de manque de mixité sociale et académique, et donc du jour au lendemain, dépistage par exemple des difficultés, tout ça, on n'a pas le temps de l'apprendre.
Très bien. Eh bien, je vous remercie pour votre participation à cette émission, Pascal Chardom et Johanna de Villers. J'espère que tous vos appels seront entendus. Chers auditeurs, merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.
Un grand merci.
Merci.